Législative 2012, 3e circonscription de la Drôme.
Une émission spéciale consacrée aux élections législatives avec en invité un candidat du premier tour,
3e circonscription de la Drôme.
Une émission proposée par Yves Glorian pour RDIWA avec Baptiste à la réalisation.
Thomas Preux, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous vous avons invité pour une raison simple, c'est que vous êtes candidat aux élections législatives de la 3e circonscription de la Drôme.
Oui.
Voilà. Et donc vous avez 27 ans, je crois. Mm-hmm. Vous avez pratiqué, vous êtes enseignant.
Oui, je suis professeur des écoles à Vaux-en-Velin.
D'accord, Vaux-en-Velin, c'est...
Dans l'agglomération lyonnaise.
Quelle est la motivation donc de ce parcours dans lequel vous vous êtes engagé au niveau de la politique?
Eh bien, moi, ce qui m'a fait me rapprocher de lutte ouvrière il y a maintenant une dizaine d'années, c'est ma révolte contre cette société. Le fait de voir qu'aujourd'hui, au 21e siècle, alors qu'on dispose de moyens techniques formidables pour résoudre les problèmes des gens et de l'humanité tout entière, je pense à l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, à un logement, à l'éducation, que pour toutes ces questions fondamentales, une société qui produit autant de richesses que la nôtre, une société qui dispose de moyens matériels fantastiques, n'est pas capable d'offrir à tous le minimum. Et voilà, c'est ça qui fait que je suis révolté contre cette société, de voir que le capitalisme n'est pas capable de répondre aux besoins élémentaires de la population. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers des idées révolutionnaires, des idées communistes, pour que la société puisse fonctionner sur d'autres bases que celles du pouvoir de l'argent et du pouvoir de ces capitalistes qui dirigent la société aujourd'hui.
Et quelles étaient les influences profondes qui vous ont poussé justement vers ce domaine au niveau de la pensée, par exemple?
Eh bien, c'est de voir que par le passé, la population, les plus pauvres notamment, s'étaient révoltés et avaient très tôt contesté le pouvoir de ces grands patrons, de ces grands banquiers sur l'ensemble de la société, et de voir qu'il y avait eu des hommes comme Karl Marx, comme des révolutionnaires comme Léon Trotsky pour donner à la population les armes politiques pour se défendre et pour contester le pouvoir des capitalistes. Alors voilà, mes influences, c'est ça, ce sont ces révolutionnaires du passé. Et puis bien sûr, mes influences, c'est surtout les militants communistes que j'ai rencontrés et qui m'ont permis de découvrir tout ça et de découvrir que changer la société, c'était possible.
Et est-ce que vous percevez des révolutionnaires d'aujourd'hui?
Alors, des révolutionnaires aujourd'hui, il en faudrait, surtout quand on voit les ravages que cause aujourd'hui la crise du capitalisme. Je pense que c'est justement ça qui manque, parce que des gens en colère, ça, j'en croise tout le temps, sur tous les marchés, partout, dans la Drôme, comme partout en France, on croise des gens en colère, des gens qui sont menacés de licenciement, des gens qui voient les services publics détruits autour d'eux, toujours pour faire des économies sur le dos de la population la plus pauvre. Alors, des révoltés, ça, on en voit. Ce qui manque, c'est effectivement des révolutionnaires. Ce qui manquerait, c'est un parti, un véritable parti pour défendre les intérêts de la population, les intérêts des classes les plus pauvres. Et c'est ça qu'il faut construire, justement. Est-ce que je vois des révolutionnaires? Ben, je pense l'être à mon niveau, modestement. Je suis fier de défendre les idées qu'a défendu Nathalie Arthaud au cours de l'élection présidentielle, parce que pour moi, ce sont ces idées-là qui sont révolutionnaires. Mais un parti de révolutionnaires, eh bien, ça reste à construire, parce que bien sûr, nous, Lutte ouvrière, on est une petite organisation, et l'objectif qu'on se fixe, ben, c'est de créer ce parti de révolutionnaires pour changer la société.
Et justement, ce petit parti, comme vous dites, il a tendance à rester petit. Quelle est cette, pour quelle raison, d'après vous ?
Eh bien, pour moi, la raison, elle est relativement simple. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une période où il y a des luttes massives, des grèves de masse, des millions de gens dans la rue. Voilà, on n'est pas en train de traverser une véritable explosion sociale. Et un parti révolutionnaire, c'est naturel qu'il soit minoritaire dans une période où les luttes elles-mêmes sont minoritaires. Quand on dit aujourd'hui que c'est par nos luttes qu'on peut changer la société, ça peut être entendu par un certain nombre de personnes, et j'espère que ça sera entendu par le plus de personnes possible, mais c'est naturel qu'on soit minoritaire alors que des luttes, pour le moment, il y en a peu. Mais quand on voit la crise économique qu'on est en train de traverser, eh bien, moi je suis convaincu que des luttes massives, il finira bien par y en avoir.
Vous parlez souvent de lutte, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer autrement que par la lutte ?
Eh bien, moi, je pense que c'est ce qu'il y a en ce moment. Aujourd'hui, des luttes, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Et dans une société comme la société d'aujourd'hui, où une société complètement divisée entre, d'un côté, des capitalistes richissimes, de plus en plus riches, des milliardaires qui nous exploitent, et de l'autre côté, une population qui s'enfonce de la pauvreté, pour dire les choses plus rapidement, dans une société qui est divisée entre des exploiteurs et des exploités, eh bien, ne pas lutter, bah, ça revient à accepter la société telle qu'elle est. Et en tout cas, moi, je ne veux pas me résigner à ça. Moi, je vous disais tout à l'heure, je suis révolté. Cette société, elle me révolte. Eh bien, c'est pour cette raison que je pense qu'il est indispensable de lutter pour refuser le sort qui est actuellement réservé aux plus pauvres.
Donc, vous êtes de Vaux-en-Velin et vous vous présentez dans la circonscription de la Drôme, la troisième. Et pensez-vous vraiment que vous puissiez être au fait et au courant un peu de ce qui se passe dans le secteur et d'être justement un porte-parole auprès de l'Assemblée nationale pour ce qui concerne la Drôme ?
En tout cas, je pense que déjà, en travaillant à Vaux-en-Velin, je suis au moins bien placé pour être le porte-parole des intérêts des plus pauvres. Parce que à Vaux-en-Velin, la pauvreté, on connaît un petit peu. Hein. Mais en ce qui concerne la Drôme, je pense surtout que les problèmes des classes populaires, ils sont les mêmes que partout ailleurs. Alors effectivement, ce qui se passe localement, c'est important d'être au courant et je m'y intéresse de près. En particulier ici à Die, la fermeture programmée des services de chirurgie et de maternité de l'hôpital, eh bien, c'est une véritable catastrophe contre laquelle il faut se battre parce que les services publics, justement, c'est indispensable à la population et il n'y a aucune raison d'accepter que ce soit une nouvelle fois les plus pauvres qui payent les frais de la crise en acceptant les mesures d'austérité qui sont décidées par les différents gouvernements et les coupes budgétaires qui sont faites sur les services publics dont on a besoin. Alors oui, moi je pense qu'en tant que travailleur de Vaux-en-Velin et puis aussi en tant que candidat à l'élection législative dans la Drôme, je suis bien mieux placé que tous les candidats défenseurs des plus riches, défenseurs de la bourgeoisie. Je suis mieux placé qu'eux pour porter à l'Assemblée nationale les problèmes rencontrés par les classes populaires.
Et justement, par rapport aux spécificités locales, donc, parce qu'il y a l'hôpital, ça c'est une chose très importante, mais il y a aussi un secteur à développer, je pense à la Biovallée par exemple.
Moi, je suis pas au courant de Biovallée. Je ne connais pas.
D'accord, ça c'est un exemple, voilà.
D'accord, mais si vous voulez bien, moi j'aimerais bien vous répondre sur l'écologie justement,
oui.
Parce que voilà, aujourd'hui on est en train de traverser une crise économique et on voit bien que les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, ils sont même pas capables de s'opposer à la fermeture d'une usine comme celle de Peugeot Citroën, par exemple, à Aulnay, quand il y a des milliers d'emplois qui sont supprimés par les capitalistes, eh bien voilà, on a des gouvernements, on a des ministres qui sont incapables d'empêcher ça. Alors si ces ministres, ils sont même pas capables d'empêcher des milliers de licenciements, mais comment il serait capable d'empêcher ces mêmes grandes entreprises, comme Total par exemple, d'aller polluer les côtes, de détruire l'environnement, de polluer l'atmosphère. Mais voilà, il faut se rendre compte qu'on vit dans une société où c'est les grands patrons ou c'est les grands banquiers qui dirigent l'économie, qui dirigent le système. Et tant que ce sera eux qui seront aux commandes de l'économie, mais comment ça sera possible de défendre la planète ? Alors je vais vous dire, moi, le combat pour la défense de l'environnement, c'est aussi le mien, mais je pense qu'il est complètement indissociable du combat contre le capitalisme. Parce que défendre l'environnement dans une société capitaliste où les seuls qui décident, ce sont des actionnaires richissimes, eh bien c'est impossible. Et pour défendre l'environnement, moi je propose de supprimer ce pouvoir du grand patronat sur toute la société. Et d'ailleurs, j'ai rien inventé. Hein. Déjà, il y a bien longtemps, il y a déjà des siècles de ça, les marxistes expliquaient que seule la population, en prenant elle-même le pouvoir, serait à même de protéger ce bien commun qu'est notre planète. Donc voilà, pour moi, le combat pour l'écologie, il n'est pas dans certains... secteur économique à la mode ou quoi, parce que pour les capitalistes, l'environnement, ça sera jamais qu'un marché supplémentaire. Ils pourront faire de la pub pour des voitures qui soi-disant polluent moins, ils pourront nous vendre le plus cher possible des produits alimentaires soi-disant meilleurs ou moins mauvais pour la santé, mais tout ça finalement c'est que du bluff. Et c'est pas ça défendre l'environnement. Défendre l'environnement, ça serait empêcher ces milliardaires de détruire notre planète comme ils sont en train de le faire en ce moment.
Vous pensez que les milliardaires sciemment polluent la planète et donc ils se sont trouvés à un espace qui serait ailleurs, à l'abri de toute pollution ?
Ben non, mais vous savez, ils sont pas à l'abri de toute pollution, mais ce qu'il y a d'assez étonnant et un peu triste dans cette économie, c'est que les capitalistes, pour faire le plus de profit possible à court terme, eh ben ils seraient capables même de vendre avec la corde avec laquelle on va les pendre. Les capitalistes aujourd'hui, par leur activité économique, par leur spéculation, en particulier sur la dette des États, ils sont en permanence en train de mettre en péril leur propre système. Ils sont en permanence, le capitalisme est toujours de plus en plus instable, tant il spécule à courte vue. Quoi. Il ne raisonne que en termes de combien de profits on va faire aujourd'hui et demain, on s'en fiche. C'est ça la spéculation. Quand ils spéculent sur les titres comme les subprimes en espérant en tirer le maximum tout en sachant bien que du jour au lendemain, ça peut s'écrouler, on voit bien que... pour eux, ce qui compte, c'est juste de retirer leurs capitaux, les capitaux de leurs actions au dernier moment. Et si tout s'écroule, tant pis. Voilà. Donc pour moi, les capitalistes, c'est pas qu'ils polluent pas par plaisir. Ils savent bien qu'ils habitent sur la même planète que nous. Mais tant que ça rapporte, eh ben ils font comme ça. Et puis après, ils réfléchissent pas. Après, c'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Oui, mais c'est pas nouveau, le capitalisme, il a jamais fonctionné d'une manière logique, planifiée. Et puis, vous parlez de surproduction. Alors, effectivement, les capitalistes qui sont en concurrence les uns contre les autres, ils peuvent avoir tendance à produire beaucoup plus que ce que les marchés, ce que les travailleurs, ce que la population peut s'acheter, peut se procurer. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a aussi des périodes où, pour faire plus de profit, les capitalistes, au contraire, ils font le choix de produire sciemment pas assez. Hein. Les capitalistes, ils ne sont pas par nature productivistes ou je ne sais pas quoi. Les capitalistes, ils font ce qui leur permet de retirer le plus de bénéfices possible. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question de planifier. Il ne faut pas planifier le capitalisme. Moi, je suis pour planifier l'économie, mais sur des bases complètement différentes. Non pas en réfléchissant au profit qu'on peut en tirer, mais en réfléchissant tout simplement à ce qui est socialement utile. Je vais prendre un exemple tout bête. Dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, eh bien, on peut pas dire que dans le domaine des médicaments, les capitalistes soient spécialement productivistes. Ça se verrait si les capitalistes y produisaient suffisamment de médicaments pour les millions de personnes qui sont touchées par le sida, y compris sur les continents les plus pauvres comme en Afrique. Ça se verrait si les capitalistes y produisaient suffisamment de médicaments pour traiter le paludisme. Eh bien, ils le font pas. Ils le font pas parce que ça leur rapporte pas. Et les capitalistes ne raisonnent que en fonction des profits qu'ils peuvent faire. Planifier l'économie sur des bases différentes, moi je suis communiste, je pense que c'est possible, on pourrait planifier l'économie en fonction des besoins de la population. Recenser tout simplement quels sont les besoins, combien de personnes on a besoin de soigner du sida, combien de personnes il faut soigner contre le paludisme, recenser aussi les moyens qu'on a pour répondre à ces besoins, les moyens de production dont on dispose, et tout simplement les faire se correspondre pour répondre aux besoins des gens. Alors voilà, pour moi, ça n'a rien à voir avec des mesures étatiques de planification du capitalisme, c'est juste une autre société, une société qui fonctionnerait sur des bases sociales complètement différentes.
Je vais revenir un petit peu en arrière. Vous citiez tout à l'heure l'hôpital de Die avec les difficultés par rapport à son service de chirurgie et sa maternité. Mais est-ce que vous avez perçu aussi d'autres problèmes dans le Diwa ?
Oui, alors en particulier, moi ce dont j'aimerais parler, c'est des licenciements. Parce que dans la circonscription, comme partout en France, c'est quand même ça la première des préoccupations des travailleurs. Parce que quand on perd son emploi, dans une période où le chômage il est tellement élevé, eh bien, on perd tout. Hein. Il n'y a pas de parachute doré pour les travailleurs qui perdent leur emploi. C'est vraiment toute la vie qui se retrouve ruinée. C'est les crédits à rembourser. C'est une véritable catastrophe sociale. Et puis, vu le nombre de licenciements qu'il y a chaque semaine, c'est une véritable hémorragie. Hein. Depuis le début de la crise, en moyenne, il y a 1000 emplois qui sont supprimés par jour, hein, y compris samedi, dimanche compris. Voilà, il y a 1000 emplois qui sont supprimés par jour. Eh bien, je pense qu'il est indispensable d'interdire les licenciements. Et vous me parlez de la circonscription. Eh bien, je pense qu'en particulier, là, les licenciements qu'il y a à la coopérative laitière à Cré, eh bien, il faut s'y opposer. Il faut interdire partout les licenciements. Et pour maintenir les emplois, il faut prendre sur les profits d'aujourd'hui, voire aussi tous les profits passés, hein, parce que bien souvent, le jour où les licenciements arrivent, il y a bien des profits qui ont été mis de côté par les capitalistes. Voilà, je suis pour utiliser tout cet argent à des fins socialement utiles, en maintenant les emplois partout et même en répartissant l'ensemble du travail entre toute la population pour mettre enfin un terme à ce drame social qui est le chômage.
Et donc, au niveau du Diwa ou de la Drôme, je veux revenir à cette question. Qu'avez-vous perçu en particulier ?
Alors, sur le marché à Die, je rencontre surtout des personnes qui travaillent dans l'agriculture, des travailleurs agricoles, qui voient bien que leurs revenus ils n'ont pas progressé du tout au cours des dernières années, alors que comme partout, les prix augmentent. Des personnes au chômage qui multiplient les entretiens d'embauche et qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Hein. La Drôme, c'est quand même un des départements de France les plus touchés par le chômage. Donc le chômage, j'en ai parlé, mais ces bas salaires et que connaissent l'ensemble de ces travailleurs agricoles du Diwa, eh bien c'est tout aussi grave. Hein. Quand on voit que les prix ils augmentent à une allure complètement folle, alors on peut même pas dire les chiffres parce qu'il n'y a aucune étude sérieuse sur la progression des prix. Mais quand les prix augmentent de, mettons, 10-20% et que les salaires y restent au niveau le plus bas, c'est de plus en plus difficile de vivre. Et beaucoup de travailleurs agricoles du Diwa, ils sont au SMIC. Donc c'est totalement insuffisant pour vivre. Et nous, une des mesures qu'on met en avant dans cette campagne, comme dans le programme des élections présidentielles de Nathalie Arthaud, c'est là une hausse générale des salaires d'au moins 300 euros et puis aussi l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire que quand les prix augmentent, eh bien il est naturel que tous les salaires, toutes les pensions de retraite, toutes les allocations augmentent d'autant, dans les mêmes proportions, pour rattraper la hausse du coût de la vie.
Par rapport à l'emploi, justement, là, que vous pensez-vous de ce démantèlement programmé du nucléaire, et en particulier, je crois, à Tricastin, il me semble qu'elle va fermer, cette centrale. Que pensez-vous de ça? Et quel va être le facteur d'emploi, s'il y en aura un?
Oui, eh bien, de toute façon, comme je vous l'ai dit, nous, on est pour la répartition du travail entre tous. Alors, ça veut dire que si, effectivement, il y a des centrales nucléaires qui doivent être fermées, eh bien, le minimum, c'est que l'État accorde à tous ses travailleurs un emploi près de chez eux, avec sans diminution, bien sûr, des salaires, parce que voilà, le travail pour tout le monde, ça doit être un droit. Et de toute façon, on va peut-être fermer des centrales nucléaires, mais il me semble que de l'énergie, il y en aura toujours besoin. Donc, la moindre des choses, c'est que l'État donne un salaire à l'ensemble des travailleurs qui vont perdre leur emploi avec la fermeture du site nucléaire.
Donc, vous êtes de Vaux-en-Velin, et est-ce que vous avez des racines au niveau de la Drôme, familiale ou...
Non, je n'ai pas de racines familiales dans la Drôme. J'ai des amis qui habitent à Dieulefi, mais je n'ai pas de racines familiales dans la région.
D'accord. Votre suppléante, pareil, hein, je crois.
Ma suppléante, elle habite à Die.
D'accord.
Ma suppléante, c'est une habitante de Die, c'est Françoise Ramelet.
Oui.
Et voilà, elle est candidate avec moi dans la 3e circonscription.
D'accord. Elle peut être vue ou elle donne des entretiens, des choses comme ça?
Elle pouvait être vue par exemple ce matin. Elle était avec moi sur le marché de Die. Nous avons discuté avec les habitants. Elle est disponible. Elle peut répondre aux questions, bien sûr.
Pensez-vous que vous serez peut-être plus présent maintenant dans la Drôme si vous étiez élu?
Oui, bien sûr. Bien sûr que si j'étais élu, ça serait naturel de passer plus de temps dans la Drôme pour être, comme je le disais tout à l'heure, le porte-parole à l'Assemblée nationale des préoccupations, des problèmes rencontrés par les habitants de la circonscription. Mais je pense que, d'ailleurs, ça ne suffit pas, parce qu'on parle souvent de ça, mais je pense aussi que le rôle d'un élu dans une assemblée comme l'Assemblée nationale, qui défend en permanence les intérêts des plus riches, qui vote des lois en faveur des patrons, en faveur des banquiers, eh bien, je pense que la moindre des choses pour un élu communiste révolutionnaire qui se rendrait à l'Assemblée nationale, ça serait de rendre des comptes à la population sur ce qui s'y passe. C'est-à-dire aussi, dans l'autre sens, d'expliquer aux travailleurs ce qui se trame, ce qui se prépare, les projets de loi qui circulent, les mauvais coups auxquels les travailleurs doivent se préparer. Parce que pour moi, le véritable pouvoir pour s'opposer à l'austérité, pour s'opposer au licenciement, pour s'opposer au bas salaire, eh bien, il est entre les mains de la population elle-même. Et donc, le rôle d'un élu qui serait révolutionnaire, eh bien, ça serait aussi d'être l'œil et l'oreille des travailleurs dans cette Assemblée nationale qui défend en permanence les intérêts des plus riches. D'être l'œil et l'oreille des travailleurs pour les prévenir de tous les mauvais coups qui se préparent contre eux.
D'ailleurs, je pense qu'au niveau de l'actualité, on peut être assez au fait de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. On est quand même dans une démocratie, je crois. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en disant que les députés défendaient principalement les intérêts des plus riches, je pense qu'aussi il y en a d'autres qui défendent l'intérêt général. Sinon, on serait déjà dans une république bananière, peut-être.
Eh bien, écoutez, on est peut-être pas si loin d'une république bananière. Non, parce que on est dans une démocratie, d'accord, mais qui c'est qui a voté pour les licenciements qui c'est qui décide des licenciements qu'il y a actuellement dans l'automobile, qui c'est qui décide des fermetures d'hôpitaux, qui c'est qui décide des fermetures d'écoles? Eh bien, c'est certainement pas la population quand même. Et d'ailleurs, vous dites on a accès à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Pas tant que ça quand même, hein, parce que les lois, elles sont décidées bien avant qu'elles soient votées à l'Assemblée nationale. C'est quand même tout un milieu, ces élus, ces grands patrons, ces journalistes aussi des grands médias qui se côtoient en permanence, qui fréquentent les mêmes restaurants, qui fréquentent les mêmes clubs. Et voilà, c'est un monde quand même qui se tient bien à l'écart de la population, bien à l'écart des travailleurs. Et je le maintiens pour défendre les intérêts non pas généraux, mais les intérêts des plus riches. Parce que, excusez-moi, mais tous ces licenciements, c'est quand même pas ça l'intérêt général. L'intérêt général, ça serait d'utiliser les profits non pas pour aller spéculer sur la dette de la Grèce, non pas pour aller spéculer sur des produits financiers, mais pour maintenir les emplois et pour produire ce dont la population elle a besoin, pour donner accès à tout le monde à des services publics de qualité. Voilà ce que ça serait l'intérêt général. Alors moi je ne trouve pas que l'Assemblée nationale défende l'intérêt général.
L'autre jour, il y avait un candidat qui se situe au centre et qui disait qu'en fait, la société française était vouée à avoir des personnes qui n'auront plus accès au travail. C'est l'évolution de la société qui le veut. Il y a aussi des choses qui laissent penser qu'on arriverait à une société de gratuité pour beaucoup de services. Je ne sais pas encore comment, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette utopie ou de cette notion ou même de cette catastrophe ?
Une société sans travail. Mais alors là, il faudrait m'expliquer d'où viendraient les richesses dont on a besoin.
Je reviens sur la question. Sans travail, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y aura des gens qui n'auront pas accès au travail.
Eh bien, moi, je ne peux pas me résigner à ça, justement. Moi, je pense qu'une société juste, ça serait une société où chacun peut donner à la société selon ses moyens et où chacun peut recevoir de la société selon les besoins qu'il a. Voilà ce que ça serait la vraie justice. Alors voir qu'aujourd'hui des centaines de milliers de jeunes sont au chômage alors qu'ils aimeraient pouvoir travailler, ils aimeraient pouvoir se rendre utiles, eh bien je trouve ça révoltant et je vais vous dire même rien que ça, ça suffit à juger une société. Rien que de voir ces millions de jeunes chômeurs qui voudraient pouvoir partir de chez leurs parents, qui voudraient pouvoir avoir un logement à eux, de voir ça, de voir que toute cette jeunesse, on la prive de pouvoir se rendre utile à la société, eh bien, ça juge un système quand même. Et moi, au contraire, je pense qu'un véritable avenir pour la population, pour les travailleurs, eh bien, ça serait la répartition du travail entre tout le monde. Et puis d'ailleurs, si on fait des progrès en productivité, si on arrive à produire de plus en plus de richesses en de moins en moins de temps de travail, eh bien, tant mieux. Si on doit travailler moins d'heures dans la semaine, ça ne nous fera pas de mal. On pourra se consacrer aussi à des choses intéressantes, à se cultiver, à apprendre des choses, à aller au théâtre, au cinéma, et ça ne nous fera pas de mal.
Par rapport au travail justement, qui est le discours principal que vous énumérez, c'est surtout par rapport à l'industrie qui licencie, mais aussi peut-être aux petites entreprises, aux artisans aussi, vous pensez ?
Oui, effectivement. Il y a beaucoup de licenciements aussi dans les petites entreprises et je pense que c'est pas du tout déconnecté tout ça, parce que en réalité, quand une grande entreprise supprime dans une région des milliers d'emplois d'un coup, eh bien, c'est aussi toutes les petites entreprises qui travaillent, qui sont sous-traitantes de ces grandes boîtes qui mettent aussi la clé sous la porte. Et pas seulement, c'est aussi tous les services, toutes les personnes qui travaillent dans la région, qui tiennent des magasins, des commerces, qui se retrouvent aussi privés de leur clientèle. Donc moi je pense que ceux qui ont vraiment du pouvoir dans la société, c'est les dirigeants des grandes entreprises, et que par leurs décisions ils ruinent bien souvent des régions entières et qui poussent aussi tout un tas de petites boîtes, de petits commerces à mettre la clé sous la porte. Et ça montre bien à quel point ces plans de licenciement sont de véritables catastrophes sociales pour tout le monde, à la fois pour les salariés de ces entreprises, mais aussi pour les salariés des petites entreprises, aussi pour les artisans, pour les commerçants, pour les petits patrons. Voilà, c'est des catastrophes pour tout le monde. Et c'est pour ça que je suis contre l'idée de laisser le pouvoir à ces grands patrons de grandes entreprises, et que je pense que c'est à la population de décider collectivement de ce qu'on fait de ces grandes entreprises, de ce qu'on fait de leurs profits et de ce qui sera utile, le plus utile à la population. Dernière chose, sur ces licenciements, sur ces suppressions d'emplois dans les petites entreprises, si on allait un petit peu gratter dans les comptes pour voir quelles en sont les causes, eh bien ça serait aussi sûrement du côté des banques qu'il faudrait regarder. Parce que la plupart du temps, quand une petite entreprise est poussée à devoir fermer, eh bien c'est aussi à cause des crédits qu'elle a sur le dos, des taux d'intérêt aberrants qui sont exigés par les banques. Et bien souvent, en faisant payer ces grands établissements bancaires, on pourrait sauver bien des emplois dans les petites entreprises.
Je voulais venir à ça par rapport justement aux entreprises et aux aides accordées par exemple par l'État, qui dans la dernière mandature présidentielle a beaucoup fait pour les entreprises, c'est-à-dire allègement des charges sociales. Est-ce que ça c'est déjà aussi quelque part dans une certaine optique une aide de l'État pour justement produire des richesses de nouveau?
Mais l'État, c'est vrai, il fait ça en permanence. En permanence, il défend les entreprises en accordant des aides directes de l'État sous forme de chèques ou alors des exonérations d'impôts, des exonérations de cotisations sociales. Bon, là, vous me parlez des petites entreprises, mais j'aimerais quand même rappeler rapidement que Total, ils ont pu ces dernières années se permettre de payer 0 euros d'impôts sur les sociétés, alors que dans le même temps, ils faisaient plus de 10 milliards d'euros de profit. Enfin, voilà, quand même. Alors, des aides, il y en a sûrement aussi des petites entreprises qui en bénéficient, mais je pense d'ailleurs que, comme elles ne disposent pas des mêmes services de comptabilité, comme elles ne disposent pas des mêmes liens privilégiés, des mêmes liens personnels avec la classe politique, je pense que c'est quand même surtout les gros qui bénéficient des aides aujourd'hui. Mais pour permettre aux petites entreprises de s'en sortir, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis surtout pour la transparence des comptes des entreprises, pour qu'on puisse voir exactement s'il y a réellement des difficultés ou pas, parce qu'il y a aussi quand même un certain nombre de PME dont les patrons gagnent énormément d'argent sur le dos de leurs salariés. Hein. Donc pour y voir clair, moi je suis pour la transparence des comptes, pour qu'on puisse voir effectivement, quelles sont les entreprises qui s'en sortent très bien, quelles sont celles qui s'en sortent moins bien, quelles sont celles qui sont en difficulté. Et puis pour résoudre les problèmes, la transparence des comptes, ça nous permettra aussi de voir si les difficultés viennent vraiment de charges trop élevées, comme on l'entend dire parfois, ou si ça ne vient pas aussi de, comme je vous le disais, des crédits imposés, des taux d'intérêt imposés par les banques, si ça ne vient pas aussi des tarifs qui bien souvent sont fixés par les grandes entreprises, hein. Là je pense à tous les sous-traitants, toutes les entreprises qui sous-traitent pour des grandes entreprises, et ben, au final, ceux qui décident des tarifs, ceux qui décident du prix auquel on vend les marchandises, ceux qui décident du montant des contrats, et bien c'est pas les petits patrons des petites entreprises, c'est les grands actionnaires des grandes. Donc la transparence des comptes, c'est une revendication qu'on a dans cette élection, comme dans l'élection présidentielle, et ça permettra d'y voir plus clair et de savoir comment maintenir les emplois sans forcément toujours accorder des aides de l'État au patronat.
Justement, pour le partage des richesses, concrètement, par quels moyens comptez-vous procéder à ce partage ?
Eh bien, le partage des richesses, déjà j'aimerais souligner que les richesses, c'est les travailleurs qui les produisent. Hein, on entend souvent dire... Les actionnaires, ils sont créateurs d'emplois. Les actionnaires, pour produire des richesses, il faut les salariés, mais il faut aussi le capital. Eh bien, quand même, moi, j'aimerais rappeler que là où la richesse, elle se crée, c'est là où les travailleurs, ils bossent. C'est pas dans les conseils d'administration, c'est pas chez les actionnaires, c'est pas par magie le capital qui crée de l'argent. Non, les richesses, c'est les travailleurs qui les créent. Et donc... pour moi, ce qui doit primer, c'est l'intérêt des plus pauvres, c'est l'intérêt de la population. Alors, partager les richesses, bah, je vais vous dire, moi, je suis tout simplement pour que les profits des entreprises, ce soit à la population, ce soit aux travailleurs, de décider de ce qu'il y a de plus utile à en faire. Voilà, pour moi, c'est ça, la répartition des richesses. C'est de se poser sans cesse les questions en termes de quel est l'intérêt de la population là-dedans. et de décider nous-mêmes de ce qu'on fera de toutes ces richesses qu'on produit.
Donc ça serait un recours par exemple au référendum pour demander l'avis de la population sur cette question, ou alors est-ce que ça serait, je pense que, je ne sais pas si c'est bien vous, mais vous comptiez aussi amener une sorte de 6ème République ?
Non, moi je n'ai jamais parlé de 6ème République, je ne vois pas en quoi changer le nom de quelque chose change la société. Je ne pense pas du tout que notre société actuelle soit réellement démocratique, comme je vous l'expliquais. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les décisions importantes ne sont pas entre les mains de la population, elles sont entre les mains des grands banquiers, des grands patrons. Donc effectivement, moi je ne trouve pas que cette société soit démocratique, mais surtout, je pense que bien plus que par un référendum, c'est par un contrôle direct des travailleurs sur leurs entreprises qu'on pourrait vraiment avancer vers une société 1000 fois plus démocratique que la société actuelle. Et d'ailleurs, je voudrais dire que dans les conseils d'administration qui dirigent aujourd'hui les grandes entreprises, eh bien, les grands actionnaires, ils votent pour se choisir des PDG, pour choisir des gens qui vont tout au long de l'année défendre leurs intérêts, essayer d'augmenter encore un peu plus leurs profits et tout ça. Eh bien, pourquoi les travailleurs, eux, ne seraient pas capables de se choisir dans les entreprises des dirigeants qui seraient responsables devant eux de la gestion des intérêts collectifs, de la gestion des intérêts du plus grand nombre pour rendre les entreprises utiles à la population. Voilà, pour moi, ça serait ça qui serait démocratique. D'ailleurs, les grands actionnaires, ils ont même le droit de révoquer à tout moment les PDG qu'ils ont choisis pour défendre leurs intérêts économiques. Eh bien, moi, j'aimerais bien que les travailleurs, ils aient la possibilité de se choisir eux-mêmes les dirigeants des entreprises et aussi la possibilité de les révoquer à tout moment si jamais ils n'étaient pas satisfaits de la manière dont l'entreprise est dirigée. Voilà, ça serait déjà bien plus démocratique.
On pourrait penser aussi que, d'après vos propos, que la population aussi pourrait décider des responsables politiques ou d'État pour un contrôle, par exemple, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas.
Bah oui, bien sûr. Moi, je suis pour la révocabilité de tous les élus, hein, y compris des députés. Moi, je pense qu'il serait tout à fait normal qu'un député qui ne suive pas les engagements qu'il a pris soit révoqué par la population et pour qu'on en choisisse un autre. Et je vais même aller un peu plus loin parce que dans l'État, il y a tout un tas d'élus, il y a des députés, il y a des sénateurs, un président de la République, des ministres, tout ça. Mais il y en a aussi un tas qu'on ne choisit pas. Il y a aussi tous ces préfets-là qui sont choisis directement par le président et puis qui sont quasiment inamovibles. Là, on a changé de président de la République, mais presque tous les préfets sont restés en place. Et puis bien plus que ça, il y a aussi tous les hauts fonctionnaires des ministères. Dans chaque ministère, on trouve des pelletés de hauts fonctionnaires, des personnes qui ont fait les écoles, l'ENA et tout ça, qui n'ont jamais été élus par la population, mais qui sont inamovibles, qui préparent les réformes de la droite sous Sarkozy. Puis ensuite, c'est ces mêmes personnes qui préparent les réformes de la gauche sous Hollande. Voilà. Donc, dans l'État, il y a aussi tout un tas de dirigeants politiques, de hauts fonctionnaires, qui n'ont jamais été choisis par la population. Et ben moi, je suis pour que ça change, ça aussi, et que la population puisse se choisir tous ces dirigeants, et que tous ces dirigeants soient révocables.
Justement, on en revient là. Monsieur Hollande, apparemment, il y a 3 jours, a révoqué 3 hauts fonctionnaires de la police. Vous en pensez de quoi ?
Bah, j'en pense qu'il a sûrement mis à la place des individus dont il est plus proche, mais qui sont tout autant au service des plus riches, des patrons, comme Hollande lui-même d'ailleurs, qui a toujours entretenu de très bonnes relations avec le grand patronat. Voilà, donc... Entre parenthèses, comme je vous le disais, la grande majorité des préfets de Sarkozy sont toujours au pouvoir dans leur préfecture. Donc ça montre bien la continuité, finalement, qu'il y a entre ces gouvernements de gauche, ces gouvernements de droite et tout ça, qui se succèdent, mais finalement, on change l'emballage, mais la politique reste la même.
C'est peut-être le problème de l'intérêt général, c'est-à-dire que, bon, il y a 2 grandes majorités... on pourrait dire celle qui est dans l'opposition aujourd'hui, l'UMP, et le PS dans la majorité. Après, il y a une multitude de partis, de groupes, de mouvements. Mais bien sûr, je sais bien que vous pensez qu'il faut que les gens de pouvoir sont toujours là pour les plus grands et au détriment des petits. Mais vous ne pensez pas que... Il faudrait peut-être faire quelque chose autre que de se présenter même, tout simplement, et puis en sachant très bien qu'on ne passera pas le second tour, par exemple.
Mais qu'est-ce que vous insinuez? Qu'on ne fait rien d'autre que se présenter aux élections? Parce que nous, de la politique, on en fait en ce moment, mais on en fait toute l'année. On en fait aussi toute l'année quand il n'y a aucune élection. Pour nous, la politique, elle ne se limite pas à ces élections. Bien au contraire, c'est que ces élections, c'est qu'un moment particulier qui nous permet d'ailleurs, entre parenthèses, et je vous en remercie d'être invité parfois à la radio, de pouvoir discuter de politique plus facilement parce que beaucoup plus de personnes s'intéressent à la politique dans les périodes d'élection. Mais c'est un moment parmi d'autres, finalement. Et vous savez, moi, je ne trouve pas que le mouvement de grève qui a eu l'année dernière contre les retraites, contre la réforme des retraites de Sarkozy, je ne trouve pas que ce soit un événement moins politique que les élections présidentielles ou les élections législatives. Au contraire, quand on voit des millions de gens qui descendent dans la rue pour contester une mesure et pour défendre leurs intérêts eux-mêmes, c'est peut-être même bien plus politique qu'une élection présidentielle, finalement. Donc, vous me demandez si ça servirait pas de faire d'autres choses que de se présenter aux élections. Bah, si, bien sûr, et ne vous inquiétez pas, on le fait. On est toute l'année à l'entrée des grandes entreprises pour y discuter avec les travailleurs, pour y diffuser notre presse communiste révolutionnaire. Voilà, parce que pour nous, le combat, il s'arrête pas aux élections. Et je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais on est convaincus que le vrai pouvoir pour les travailleurs, c'est pas le bulletin qu'ils vont mettre dans l'urne, c'est surtout les luttes qu'ils devront mener pour défendre leurs intérêts, y compris contre Hollande, qui ne manquera pas de provoquer la colère de la population en continuant l'austérité comme il l'a lui-même promis. Voilà, donc j'espère bien que les années à venir seront chargées en lutte politique des travailleurs pour la défense de leurs intérêts.
Par rapport à la Drôme, donc, mais comme vous n'y êtes pas vraiment, je suppose que c'est un programme que vous avez établi à travers toute la France. Mais au niveau local, quels enjeux voyez-vous au niveau social pour la population et qu'est-ce qu'il y a à sauvegarder ou qu'est-ce qu'il y a à innover?
Bah, au niveau local, moi je pense surtout à cet hôpital de Die. Parce que faut quand même se rendre compte qu'on est très très loin de l'hôpital de Valence, par exemple, et qu'on ne peut pas demander à des femmes qui doivent accoucher d'urgence de se rendre à un hôpital qui est à une heure de route d'ici. Et d'ailleurs, c'est encore bien pire pour les personnes qui habitent dans la montagne autour de Die, dans le Diwa, qui sont parfois déjà à une heure d'ici de Die. Alors pour se rendre à l'hôpital, j'en parle même pas. C'est vraiment une question de santé publique. C'est scandaleux de voir que l'État français, il est capable de trouver en quelques heures des centaines de milliards d'euros pour voler au secours des banques en plein cœur de la crise économique, mais qu'il n'est complètement incapable de trouver quelques millions d'euros pour sauver des vies humaines. Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit de sauver des vies humaines. Quand c'est des accouchements parfois difficiles qui sont en jeu et qu'on va demander à des femmes de faire des heures de route pour aller accoucher, eh bien désolé, mais c'est quasiment criminel de fermer une maternité dans des régions qui sont éloignées des hôpitaux. Voilà. Donc pour moi, la priorité sociale a dit... c'est le maintien et même le développement de l'hôpital, de son service de maternité, de son service de chirurgie et même la création d'autres services d'ailleurs.
Justement, il y a les jeunes aussi, vous parlez des jeunes sans emploi qui sont encore chez leurs parents. Et dans le Diwa, vous voyez bien quand même que c'est un secteur assez agricole, écologique aussi. il y a très peu d'industrie. Comment pensez-vous remédier à cette situation au niveau de l'emploi pour les jeunes?
Eh bien, justement, je parlais des services publics et je pense qu'en matière d'emploi, il y aurait aussi bien des choses à faire en création d'emplois pour tout ce qui est utile à la population, pour ces hôpitaux, pour ces écoles. Je pense qu'il faudrait embaucher massivement des enseignants pour développer l'école rurale, pour développer les écoles de village, qui auraient besoin aussi de créer des emplois pour la construction de logements. Voilà, que toutes ces questions-là, c'est aussi des emplois qui sont en jeu. Parce que quand l'État se désengage et ferme massivement des services publics ou des bureaux de poste, c'est aussi des emplois qui sont supprimés, alors qu'on pourrait créer bien des emplois utiles à la population.
Et donc, dans le secteur économique, c'est-à-dire toujours dans la Drôme, quelles perspectives envisagez-vous? Est-ce que vous utiliseriez les moyens de l'État pour justement relancer quelque chose?
Moi, je pense qu'effectivement, pour toutes ces questions-là, y compris le logement, ça, on est quand même les seuls à dire ça, que c'est à l'État de mettre la main à la poche pour créer les logements dont il y a besoin. Parce qu'on voit bien ce que ça donne quand même depuis des années, que l'ensemble du marché immobilier est entre les mains du secteur privé. Vous me demandiez un petit peu plus tôt si les capitalistes n'étaient pas trop productivistes. Eh bien, en matière de logement, je trouve pas. Hein. Je trouve pas que les capitalistes ils soient productivistes en matière de logement social, par exemple. Alors, non, il faut pas leur laisser complètement la main basse sur des secteurs aussi importants. Et c'est à l'État de lever les fonds nécessaires à la création d'un grand service public du logement et d'un grand service public de construction de logements sociaux. Parce que c'est à l'État de le faire, ça. Donc, dans le secteur privé, je pense que là aussi, il faut imposer la création d'emplois, mais cette fois-ci en prenant donc sur les profits des grandes entreprises pour imposer que ces profits y servent à la création d'emplois, quitte à diminuer le temps de travail, mais en maintenant intégralement les salaires. Parce que on a tous besoin d'un salaire complet pour vivre convenablement, on a tous besoin d'un emploi, donc on peut, en prenant sur les profits, répartir le travail entre toute la population pour mettre un terme au chômage et garantir un vrai salaire à tout le monde.
Sachant qu'au niveau des logements, il y a énormément de lieux qui sont désaffectés ou vides, ou même... comment dire, des lieux de résidence, par exemple, qui sont inoccupés une très grande partie de l'année. Comment remédier à ce problème en sachant que tous ces bâtiments sont vides et que des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes sont mal logées? Comment vous, élu au niveau de l'Assemblée nationale, ameneriez-vous ce problème et le résoudre?
C'est d'autant plus scandaleux, ça, qu'il existe déjà des lois contre ça. Il existe déjà des lois pour que ces logements vides soient utilisés par ceux qui en ont besoin. Seulement, comme la plupart des quelques lois qui sont censées être utiles à la population la plus pauvre, eh bien ces lois-là, elles ne sont pas respectées. Voilà. C'est comme toutes ces lois sur l'obligation pour les entreprises d'embaucher un certain nombre de travailleurs handicapés. C'est comme ces lois pour l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Voilà, ça c'est des lois qui sont sur le papier, mais qui ne sont pas appliquées parce qu'après les patrons ils font bien ce qu'ils veulent. Eh bien, dans le domaine du logement, moi je serais pour aller bien plus loin que ça et je serais tout simplement pour laisser les gens prendre eux-mêmes les logements dont ils ont besoin. Et ça serait une vraie politique révolutionnaire. De dire, vous avez besoin d'un logement, il y a des logements vides, eh bien, allez les prendre. Jusqu'à présent, quand vous faisiez ça, vous vous retrouviez avec la police contre vous pour vous empêcher d'aller chercher ce dont vous aviez besoin. Eh bien, aujourd'hui, vous avez de votre côté des révolutionnaires qui enverront la police contre ceux qui essaieront de vous déloger. Voilà. Donc ça serait une politique pour le logement et qui laisserait la possibilité aux, aux gens qui sont qui en ont le plus besoin de résoudre leurs problèmes eux-mêmes et avec notre soutien.
Et l'Europe dans tout ça, vous vous situez où ?
En Europe. Je me situe en Europe et je me sens, je vais vous dire, moi je me sens travailleur tout court. Je me sens travailleur comme les travailleurs italiens, comme les travailleurs espagnols ou grecs, et puis aussi comme tous les travailleurs qui sont d'une nationalité, qui n'ont pas une nationalité de l'Union européenne. Voilà, je me sens aussi très proche de tous les travailleurs sans papier. Je me sens très proche de tous les travailleurs africains immigrés ici. Voilà, mon camp, c'est celui-là. Et je me sens mille fois, mais je sens mes intérêts mille fois plus près de ceux d'un ouvrier polonais ou algérien que d'un patron français. Alors, ça fait partie du combat du mouvement ouvrier, de considérer que tous les ouvriers du monde entier sont dans le même camp et qu'ils ont face à eux tous les grands patrons qui nous exploitent partout dans le monde. Alors voilà, moi je suis pour la création de grands États-Unis socialistes européens, et puis même plus largement que ça. Moi je pense que le combat des travailleurs contre l'exploitation, que les luttes des travailleurs, elles n'ont pas de frontières, et voilà, je suis internationaliste, je m'oppose à l'Europe des riches, à l'Europe des capitalistes, à l'Europe des financiers, mais je suis pour l'union internationale de tous les travailleurs. Et à ce sujet, j'aimerais quand même rajouter que on a vu ces dernières années des ouvriers de chez Renault, par exemple, soutenir matériellement les grévistes d'ouvriers Renault en Roumanie, et que ça va vraiment dans le bon sens, et ça montre qu'il y a bien des travailleurs qui sont conscients que, quelle que soit leur nationalité, on a les mêmes intérêts contre les patrons qui nous exploitent.
À vous entendre, donc, depuis bientôt une heure, je pense que vous avez une vision de la société basée sur les travailleurs, en somme.
C'est mon camp. Et effectivement, moi, je suis convaincu, et je trouve que chaque épisode de la crise économique nous le prouve. Je suis convaincu que cette société, elle est divisée entre des capitalistes richissimes qui nous exploitent, et puis des travailleurs qui payent finalement les frais de cette crise économique. Parce que à chaque fois qu'il y a des licenciements, à chaque fois qu'il y a des services publics qui sont sacrifiés, à chaque fois qu'il y a des plans d'austérité, eh bien ça revient à faire payer aux plus pauvres les conséquences de la crise économique. Eh bien moi, dans cette guerre qu'ils sont en train de nous mener, dans la guerre que les plus riches sont en train de mener contre les plus pauvres, eh bien oui, j'ai choisi mon camp. Et mon camp, c'est celui des classes laborieuses, c'est celui des gens qui ne peuvent compter que sur leur force de travail pour vivre. Et quand je dis les travailleurs, je pense aussi à tous les travailleurs privés d'emploi, à tous les chômeurs qui sont des travailleurs laissés à l'écart du marché du travail par les capitalistes. Je pense aussi à tous les travailleurs qui sont à la retraite, tous ceux qui ont consacré leur vie à travailler pour subsister à leurs besoins et qui aujourd'hui doivent survivre avec des retraites qui bien souvent sont très insuffisantes et qui ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie, parce que les prix augmentent sans cesse, mais les retraites restent bloquées au plus bas. Donc voilà, mon camp, c'est celui-là, c'est celui du monde du travail au sens large.
Ouais, une question qui me turlupinait quand même un peu, c'est par rapport aux travailleurs, est-ce que l'artiste est un travailleur ?
Bah oui, c'est un travailleur de la culture. Moi, je pense que voilà, être communiste, c'est vouloir offrir à l'ensemble de la population l'accès à tout ce qu'il y a de meilleur, et la culture, ça en fait partie. Et ce qui est triste aussi dans cette société, c'est de voir que les plus pauvres ont peu d'accès à la culture, parce que ça coûte cher, tout coûte de plus en plus cher, tous ces concerts, la musique, le cinéma, voilà.
Pourtant, l'artiste est producteur, ou le travailleur est producteur de richesses.
Oui, mais justement, ce que j'essaie de dire, c'est que cette culture, c'est une richesse, et que comme toutes les richesses, eh bien, tout le monde n'y a pas accès à égalité. Et cette richesse culturelle, moi, je suis pour que tout le monde y ait accès. Et ça voudrait dire, y compris bien plus de gratuité d'accès à la production cinématographique, de gratuité d'accès au musée, à la musique, voilà. Et je pense que quand on voit les profits colossaux qui sont réalisés par l'industrie du cinéma, par l'industrie du disque, eh bien, c'est scandaleux de voir que ces capitalistes brassent autant de profits sur le dos des artistes, sur le dos des réalisateurs de cinéma, sur le dos des musiciens, des comédiens, et puis sur le dos surtout aussi de la population qui doit payer cher pour accéder à la culture. Donc moi, voilà, encore une fois, y compris sur les questions culturelles, j'ai ce point de vue où que mon camp, celui de la population des travailleurs, n'a pas accès à égalité à cette richesse par rapport aux riches qui eux ont les moyens de se cultiver autant qu'ils le souhaitent.
Comment voyez-vous l'avenir politiquement et étatiquement et sociétalement, pardon?
Eh bien, l'avenir, je crois que les dirigeants de cette société eux-mêmes ne savent pas bien ce qu'ils nous réservent. Moi, quand je regarde le capitalisme aujourd'hui, j'ai l'impression d'observer une maison de fous. Comme on en discutait tout à l'heure, les capitalistes, ils sont en train de spéculer sur des produits financiers. Ils savent qu'aujourd'hui, ça leur rapporte. Ils savent aussi que demain ou après-demain, ça peut s'effondrer, qu'il faudra qu'ils trouvent autre chose. Bon, et à chaque fois, chaque bouleversement, chaque effondrement boursier, ça provoque des catastrophes sociales terribles, mais qui sont intégralement payées par les travailleurs qui perdent leur emploi, par les travailleurs qui voient les salaires bloqués, les prix augmenter. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que politiquement ça nous réserve. Ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas d'un gouvernement que les solutions vont venir, puisque les gouvernements acceptent finalement que les grands patrons aient le droit de faire ce qu'ils veulent avec leurs banques, avec leurs grandes entreprises. Donc pour moi, la seule solution pour sortir de la situation dans laquelle on s'enfonce, ça serait une explosion sociale, ça serait des luttes des travailleurs. Et c'est ça qu'il faut préparer. Et c'est à ça que nous, à Lutte ouvrière, on essaye de se préparer en essayant de créer un parti politique suffisamment fort pour défendre au cours de ces luttes sociales les intérêts politiques et les intérêts matériels de la population.
Depuis enfant, même adolescent, je dirais, j'entendais déjà Arlette Laguiller parler des travailleurs, travailleuses. Mais ce que je vois, c'est que la société, justement, détruit le travail. Et en même temps, est-ce que vous avez pour autant augmenté votre parti? Est-ce qu'il s'est enrichi? Ou alors, justement, est-ce qu'il y a de moins en moins de travailleurs pour vous suivre?
Bien, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le camp des plus pauvres qu'on entend représenter, il ne va pas se renforcer par des défaites. Et si c'est ça dont vous parlez, eh bien, je pense pas que quand des emplois sont supprimés, que quand les patrons sortent vainqueurs des luttes qui les opposent aux travailleurs, je pense pas que ces défaites-là puissent renforcer notre organisation, puisque nous sommes du côté des travailleurs. Donc chaque défaite nous affaiblit en fait. Mais je pense pas que ce soit une fatalité de subir ces défaites. Et je pense que le monde du travail, il pourra aussi connaître ses victoires à ses heures. Et c'est justement quand on retrouvera le chemin des luttes, quand la population se descendra dans la rue par millions et qu'on arrachera des victoires au patronat, comme des choses dont j'ai parlé, comme l'interdiction des licenciements, quand on arrachera des victoires, comme l'augmentation des salaires et leur indexation sur les hausses de prix. Voilà, c'est finalement quand on gagne que le camp des travailleurs se renforce et que le parti qui représente ses intérêts peut se renforcer. Voilà, tant qu'il n'y aura pas ces luttes massives, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une organisation comme Lutte Ouvrière devienne un parti de masse. On ne se renforcera que dans la victoire.
Alors maintenant, je vais vous poser la question. Peut-être j'en ai une autre avant. Que pensez-vous du mandat, enfin du bilan du candidat sortant, c'est-à-dire Monsieur Mariton, et voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Bah oui, ce que j'ai à dire du député sortant de Mariton, c'est que c'est vraiment le prototype du député de droite qui a voté sans sourciller pour toutes les mesures d'austérité qui ont été prises par le gouvernement Sarkozy, et que voilà, ça suffit à démontrer que les travailleurs n'ont absolument rien à attendre de ce genre d'individu qui est complètement à plat ventre devant les intérêts des plus riches et qui s'est montré obéissant de toutes les demandes du gouvernement de droite et de toutes les lois, et qui a voté toutes les lois du gouvernement de Fillon. Donc non, il n'y a rien à attendre de cet individu là
donc la question, une fois élu, qu'est-ce qui nous ferait nous motiver pour voter pour vous?
Eh bien, voter pour moi, ça serait voter pour faire entendre les revendications du monde du travail. Voter pour moi, ça voudrait dire les travailleurs qui se prononceront pour ce programme, ils exprimeront de cette manière le fait qu'ils sont conscients que dans la guerre que nous mènent actuellement les grands capitalistes, il faut que le monde du travail défende son propre camp et par ses propres moyens, sans compter sur un sauveur, sans compter sur un gouvernement pour résoudre nos problèmes. Ça montrera qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui sont conscients que pour défendre nos intérêts, il faudra retrouver nous-mêmes le chemin des luttes, parce qu'on a la force, on a les moyens de se défendre. Ce sera une manière de dire que dans cette société, il n'y a rien qui tourne sans nous. Que tous les services publics, tous les transports, toutes les usines, toute l'agriculture, tout fonctionne grâce aux travailleurs. Et que si on a les moyens de faire tourner cette société, on a aussi les moyens de tout bloquer, on a aussi les moyens de contraindre les patrons à reculer sur un certain nombre de questions qui sont vitales pour nous, comme par exemple leur imposer l'interdiction des licenciements. Voilà, ça sera à la fois voter pour ces objectifs de lutte, et ça sera aussi une manière de dire que nous, les travailleurs, on fait tout marcher, qu'on peut se défendre nous-mêmes.
Eh bien, je crois que l'heure est passée, donc c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'être passé.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ?
Non, je suis ravi d'avoir pu participer à cette campagne et d'avoir rencontré sur les marchés des travailleurs qui, bien souvent, même quand ils ont voté François Hollande, sont bien conscients que c'est pas ça qui va résoudre leurs problèmes, et que se débarrasser de Sarkozy, ça fait certainement plaisir, mais qu'il faudra bien autre chose pour résoudre nos problèmes matériels.
Merci.
Législative 2012, 3e circonscription de la Drôme.
Une émission spéciale consacrée aux élections législatives, avec en invité un candidat du premier tour,
3e circonscription de la Drôme.
Une émission proposée par Yves Glorian pour RDIWA, avec Baptiste à la réalisation.